Avocat politique. Prenez un café, installez-vous. Aujourd'hui, nous partons en Italie, où le populisme n'est pas qu'un simple mot que l'on peut lire dans les journaux. Il se vit dans la rue et dans les médias. Mais avant d'entrer en profondeur dans le sujet, on va faire un petit retour à il y a quelques jours, où on a eu des manifestations avec un slogan qui était prôné, qui était tout particulier et qui a pu faire résonner avec ce qui s'est déroulé il y a quelques temps aux États-Unis, le No Meloni Day, ce qui peut nous faire penser directement à ce qu'on a vu aux États-Unis avec le No Trump Day, No King Day. Et où on a eu en Italie, notamment à Turin, à Gênes dans ma ville, des milliers d'étudiants qui sont descendus occuper à la fois les places dans la rue pour manifester et montrer leur mécontentement au vu de la politique mise en œuvre par Meloni et de la censure toujours plus importante. On en avait déjà parlé dans un dernier épisode de Moka Politique, la censure toujours plus importante par rapport à la presse, par rapport à l'information, par rapport au traitement quotidien de l'information, par rapport aux réformes justement qui concernent la justice, le prochain référendum qui arrivera en 2026, qui concerne directement les magistrats et l'indépendance de la magistrature en Italie, qui est un sujet de crispation et qui tend encore plus à cristalliser et à polariser la société tout entière italienne. Et ces mobilisations, bien évidemment, elles montrent que le populisme ne se limite pas seulement aux urnes. Il s'exprime dans la rue et à travers la figure centrale des jeunes qui jouent un rôle majeur et qui ont justement cette possibilité de pouvoir montrer leur mécontentement. Ça avait été possible aussi, moi je l'avais beaucoup suivi à Gênes avec le départ des flottilles pour Gaza, où on avait eu, c'était extrêmement impressionnant et extrêmement émouvant de voir tous ces jeunes qui se sont réunis sur les places autour du port de l'aquarium de Gênes pour témoigner de leur mécontentement et de leur volonté de faire avancer la situation par rapport à Gaza et de pouvoir aider même d'une manière qui peut sembler dérisoire au vu de la situation. Mais notre émission d'aujourd'hui, on a fait un petit retour en arrière, mais notre émission d'aujourd'hui, elle va s'intéresser au populisme. Et pour s'intéresser au populisme qui est exercé et que l'on peut voir actuellement avec la figure de Giorgia Meloni, il faut revenir aussi un petit peu en arrière avec ce contexte historique italien pour pouvoir mieux cerner et mieux comprendre le populisme dans son entièreté et dans toute sa globalité. En 1946, on a un référendum où 54% des Italiens choisissent la République. C'est une période extrêmement importante qui va être marquée par un dynamisme économique et une participation active au sein de la construction européenne avec différents projets et différents programmes. Dans les années 70, on passe directement à une autre période qui est caractérisée par les années dites de plomb. C'est une spirale tout simplement de violence avec les brigades rouges qui va fragiliser la confiance dans les institutions publiques. En 1992, c'est extrêmement important, il y a l'opération dite main propre. C'est, pour résumer ça très simplement, c'est une corruption généralisée au sein de la classe politique avec l'effondrement des partis traditionnels comme la démocratie chrétienne qui était extrêmement forte à son apogée à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va voir une figure qui va beaucoup nous intéresser, qui va progressivement émerger sur le devant de la scène politique italienne, qui a débuté comme entrepreneur. Un entrepreneur qui, justement, achetait des actions dans le domaine de l'immobilier pour faire fortune. C'est la figure de Silvio Berlusconi, qui, entre 1994 et 2011, a fait 4 mandats avec son parti qu'il a créé, Forza Italia, et ce qui a vraiment concrétisé l'émergence d'un populisme que l'on peut dire qu'il est moderne. Et ce qui a permis de voir arriver Giorgia Meloni à partir de 2022, présidente du Conseil italien, et qui caractérise vraiment ce populisme que l'on peut beaucoup remarquer actuellement et voir justement des liens potentiels avec la France, avec la figure de Jordan Bardella, de Marine Le Pen et d'autres figures populistes également importante en France, qui surfe sur ce qu'on va caractériser sur ce terme de populisme. En Italie, on a toujours cette fracture qui est constante entre le nord et le sud. Le nord, c'est le poumon un petit peu de l'Italie, on peut dire ça comme ça d'un point de vue un peu extérieur. C'est le cœur industriel et économique. Alors que le sud, c'est vrai qu'on le voit souvent comme représenté par un chômage extrêmement élevé et un sentiment de marginalisation qui a toujours été croissant dans l'histoire de l'Italie. Mais si on revient à la figure de Silvio Berlusconi, qui est un précurseur véritablement du populisme italien et qui a permis, je dirais, d'institutionnaliser le populisme et d'ancrer le populisme dans cette conquête du pouvoir à l'italienne. Silvio Berlusconi, il incarne ce que Pierre-André Taquieff appelle le populisme moderne. C'est pour ça que je me sers de cette notion et je m'appuie justement sur Taquieff. Parce que grâce à cette main mise sur les médias, puisque Silvio Berlusconi s'est servi et a créé ce télépopulisme, il s'est appuyé sur le rôle central de la télévision. Il est devenu un leader charismatique qui s'adresse directement et de manière très concrète au peuple. Et il joue sur le fait de pouvoir contourner les institutions et de dénoncer les élites. Il se pose comme anti-élite, et ça va extrêmement bien fonctionner à ce moment-là, puisque, on le rappelle juste, mais on sort de l'opération main propre en 1992. On a une corruption généralisée au sein de la classe politique, avec l'effondrement des partis traditionnels, où c'est donc une complète désillusion. Les partis dits traditionnels qui s'étaient implantés depuis longtemps en Italie s'effondrent brutalement avec ce scandale qui a fait énormément de bruit en Italie, mais pas seulement en Italie. Et donc, Silvio Berlusconi, il arrive à un moment tout à fait propice où il va pouvoir surfer sur ce populisme et où il a un petit espace qui lui est disponible pour pouvoir jouer là-dessus et pour pouvoir se créer une place considérable sur l'échiquier politique et sur le débat politique italien. Il va donc s'adresser directement au peuple, d'accord ? En définissant sa stratégie et en disant justement que le système est corrompu, on l'a vu, on sort de l'opération main propre, et que les élites sont toutes regroupées ensemble et qu'elles défendent leurs propres intérêts et qu'elles ne souhaitent pas justement défendre les intérêts du peuple et que c'est une forme de petite caste qui reste une caste qui reste entre elles et qui se fréquente entre ces mêmes personnes des mêmes bords et qui, tout simplement, ne prête pas plus attention à cela au peuple, mis à part pour être élu et arriver au pouvoir. Le populiste, ça crée un mouvement permanent et il devient l'incarnation, Silvio Berlusconi, l'incarnation même de cet homme providentiel qui est attendu à ce moment-là par le peuple de manière très importante. Son attitude, son discours vont séduire plus qu'ils ne vont convaincre et cette stratégie va être amplifiée par son contrôle médiatique extrêmement puissant, extrêmement croissant. Et dans mon autre émission, L'Expresso de la politique, on a justement parlé de la galaxie Bolloré et justement de l'emprise que l'on peut avoir qui est considérable sur les médias et cette caisse de résonance, ce tremplin qui peut être absolument centrale pour gagner des élections et pour s'imposer dans les débats politiques. Et c'est justement ça la stratégie de Silvio Berlusconi. Et où on a progressivement cette popularisation de l'homme providentiel, j'en perds mes mots. La réussite de Berlusconi, elle repose sur ce mythe de l'homme providentiel. Et c'est quelque chose que l'on peut entendre aussi beaucoup en France avec le fait que l'on attend énormément de l'homme providentiel. Nous sommes le 17 novembre 2025 et déjà depuis quelques années, on parle de 2027. On attend 2027 avec la figure potentielle d'un nouveau messie qui va arriver. Et donc, cette élection présidentielle, on le voit si on veut faire une comparaison avec la France, elle est extrêmement centrale. Elle est extrêmement importante et on le voit avec l'Italie, ce mythe de l'homme providentiel avec un leader qui serait capable de résoudre tous les problèmes à la place des citoyens, qui incarnerait la proximité, mais aussi la distance avec l'autorité nécessaire. Puisqu'on est dans un contexte donc, où le peuple italien est déçu par ses propres institutions et où il va croire fermement en cette figure qui promet des solutions claires et immédiates. Et ce mécanisme, on l'a dit en introduction, il est toujours visible aujourd'hui avec Meloni et avec son parti Fratelli d'Italia. C'est un populisme que l'on pourrait presque dire qu'il est messianique. Ah oui, exactement. Messianique du discours, Berlusconi devient ce nouveau héros politique où ses promesses électorales sont basées sur des sondages, des études d'opinion, comme une campagne marketing pour un produit, pour arriver à une fin. Et là, bien sûr, il se sert de son passé comme entrepreneur et comme personne qui a su réussir en achetant plusieurs biens immobiliers et en faisant fructifier ses biens. Ce sont des messages qui sont simples, le populisme. Ce sont des messages qui sont clairs, où on va exalter le bon sens populaire, le rationalisme entrepreneurial, la réussite individuelle, et on va toujours dénoncer les élites. La dénonciation des élites, elle est constante, elle est permanente et elle est absolument centrale. En 2001, devant les caméras, il va signer notamment un contrat en 5 points avec la baisse des impôts, avec la baisse de l'insécurité, la hausse des retraites, la création de 1,5 million d'emplois et l'ouverture de grands travaux. Donc ça, on l'a dit, mais ce qui compte, c'est l'omniprésence médiatique, où Berlusconi transforme les médias en un outil central du populisme. C'est le fondateur de Finifens et de Mediaset, où il va détenir un quasi-monopole sur la télévision dite commerciale. Il va créer des chaînes privées, malgré le monopole de la RAI, avant leur légalisation par la loi Mamie en 1990. Et donc, chaque apparition télévisée devient un moment politique décisif qui va permettre de créer un lien avec le peuple qui est spectateur. Et on va arriver dans cette société dite société du spectacle, où Guy Debord, qui justement théorise et caractérise cette société du spectacle, où on a besoin, on le voit hein, en France, la médiatisation constante, où justement on a toujours un panel d'images. Et justement, là, le fait de voir de manière constante, régulière, Berlusconi sur des plateaux télévision et justement avoir cette mainmise, ça va lui permettre cette hyperactivité médiatique. C'est une caractéristique du régime populiste, ce télépopulisme de Berlusconi. On a cette personnalisation du pouvoir et en style presque burlesque, avec une rhétorique qui est directe, qui est frontale et qui est populaire. Où Berlusconi devient symbole et porte-voix. Il cherche à être porte-voix de l'expression du peuple et justement d'avoir cette légitimité et d'avoir la possibilité de parler pour le peuple. C'est ça qui est central. Si on veut rajouter un petit peu de cadre théorique, parce que la notion de populisme, elle est un petit peu utilisée à tout va dans la société, tout le monde en va de sa petite phrase sur le populisme, tout le monde a quelque chose à dire, et c'est vrai qu'on entend beaucoup cette notion actuellement, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir bien la cerner et de pouvoir bien comprendre les enjeux. André Taguieff, il identifie, lui, 6 aspects du populisme moderne qui caractérise, selon moi, la figure de Berlusconi. C'est la mobilisation, tout d'abord, des masses populaires, qui sont souvent protestataires. Et là, on l'a vu dans le cadre, après le scandale de corruption des mains propres, etc. On a, justement, après 1992, cette mobilisation des masses populaires, et lui, il va réussir à incarner, justement, ce mouvement et ces mobilisations. On a la figure d'un chef extrêmement charismatique qui va personnaliser le pouvoir et qui va s'adresser directement au peuple. On a aussi une idéologie qui va idéaliser le peuple et dénoncer des ennemis comme bouc émissaire. Les ennemis, ce sont les élites qui sont corrompues et qui jouent et qui, justement, prennent des décisions contre le peuple. On a aussi un rejet constant de l'expertise et la valorisation du bon sens populaire. Alors que Berlusconi était aux antipodes, littéralement, du bon sens populaire, puisque il avait extrêmement d'argent, il jouissait d'une fortune extrêmement grande, et il avait justement été dans des milieux très sulfureux, il a eu des procès justement, de nombreux procès par rapport à des affaires avec des prostituées, etc. Donc c'était une figure qui était extrêmement sulfureuse, mais il a surfé sur les aspirations du peuple, sur le bon sens populaire. C'est un discours, comme on l'a dit, qui est assez simpliste, qu'on va adapter à cette communication de masse, et on va essayer de surfer sur les envies, sur les aspirations du peuple et de pouvoir créer cette communication de masse qui est extrêmement importante. Et enfin, André Taguieff, il parle de légitimation du pouvoir, qui est capable d'unifier la nation malgré la faillite des institutions. Et dans le contexte dans lequel on est, encore une fois, c'est absolument central et où on va pouvoir redonner une importance capitale au pouvoir alors qu'il était complètement ébranlé, complètement mis à terre avec ces scandales de corruption où on découvre que les partis traditionnels n'étaient pas exempts de tout scandale. On a aussi donc Ernesto Laclau. Pour Laclau, le populisme, c'est un mode moderne d'émancipation politique. Je répète parce que c'est important, le populisme, c'est un mode moderne d'émancipation politique où ça va restructurer le lien social et où ça va rassembler les citoyens marginalisés autour d'un « nous » face à un « eux ». C'est-à-dire qu'on va avoir le lien social qui va se redéfinir, où on va pouvoir rassembler et mettre ensemble donc, tous les citoyens qui sont marginalisés dans la société autour d'un « nous » qu'on va justement élever contre le « eux », contre les élites, contre les personnes qui détiennent le pouvoir, qui sont au gouvernement et qui justement prennent des décisions qui vont contre l'intérêt, les aspirations du peuple. Et Berlusconi, Silvio Berlusconi, puis Giorgia Meloni vont exploiter, vont surfer sur cette logique où le populisme devient cet outil de recomposition sociale et de recomposition de la sphère politique. Et enfin, Bruno Ravas. Ravas, il distingue deux phases du populisme berlusconien. On l'a dit, 1994, l'arrivée au pouvoir avec un discours populiste, médiatique, justement. Et justement, après 2008, un retour avec un parti structuré, Forza Italia, un discours institutionnalisé, mais toujours empreint de populisme. Le populisme de Berlusconi, il est accessible. C'est ça, justement, le but, et c'est ça l'enjeu fondamental, de rendre le populisme le plus accessible possible. Il faut qu'il soit structuré, et il faut qu'il soit compatible avec une démocratie libérable. Libérable, puisqu'il faut qu'il puisse être faisable dans cette démocratie libérale, et de pouvoir utiliser les médias modernes pour amener à une mobilisation plus importante des citoyens. On le voit justement, Meloni et son parti politique de Fratelli d'Italia depuis 2022, justement depuis son arrivée comme présidente du Conseil italien, elle a hérité de ce populisme qui s'est institutionnalisé progressivement, qui combine à la fois le charisme, les médias et un discours profondément direct, où elle a cherché à exploiter, comme l'avait fait Berlusconi à son époque, les fractures qui existent entre le Nord et le Sud, ce clivage profond, où on va chercher à rassurer le Nord sur son économie et on va mobiliser beaucoup le Sud autour de la question de l'identité nationale. Et le style de Giorgia Meloni reflète énormément celui de Silvio Berlusconi, avec des messages, on l'a dit, simples, clairs, des promesses concrètes et un leadership qui est personnalisé. Cette figure de l'homme providentiel qu'on entend beaucoup, on l'a dit en France, mais que l'on voit aussi en Italie avec Silvio Berlusconi, avec Giorgia Meloni, qui arrive à endosser cette attente, à endosser cette figure du leadership personnalisé que l'on attend justement énormément d'avoir cette possibilité-là. Et donc la France, on le sait, mais c'est intéressant de pouvoir le redire, elle montre des dynamiques extrêmement similaires, avec un désalignement entre les partis et les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une époque et dans une période de tripartition sous le régime de la Ve République, avec, on l'a dit, une abstention qui est croissante. Et donc ce désalignement entre les partis et les citoyens permet au populisme de pouvoir prospérer lorsqu'il existe un vide entre citoyens et les institutions, comme le soulignent à la fois Lazare et Chira. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir actuellement ? On a pu voir que l'Italie, c'est un laboratoire du populisme. On peut dire que c'est un laboratoire du populisme avec des fractures historiques, économiques et sociales qui ont favorisé l'enracinement du populisme. Berlusconi, avec cette notion de télépopulisme, il a montré comment cette personnalisation du pouvoir, les médias, en jouant sur son charisme, pouvaient transformer profondément le populisme en une stratégie durable. Les jeunes et la contestation montrent que ces tensions sont toujours vives. On l'a vu avec justement les débats très, très houleux sur la question de Gaza, que ce soit justement par rapport au parti au pouvoir qui a cherché à minimiser tout ce qui était en train de se dérouler dans la société civile par rapport aux manifestations et aux mobilisations constantes par rapport à la situation dramatique à Gaza. Et de l'autre côté, on l'a vu aussi avec le mouvement, comme on l'a dit en intro, sur le No Mélanie Day, où les jeunes, ils essayent de reprendre la main. Ce qui peut être extrêmement compliqué dans un régime comme en Italie, où on le sait, Mélanie, elle a érigé de nombreuses choses pour essayer d'éloigner le plus possible la presse indépendante, la presse qui essaye de faire son travail de recherche, la presse qui essaye justement d'enquêter. On l'a vu et on l'avait dit dans le dernier épisode de Mocha Politique, avec les menaces toujours plus importantes sur les journalistes. Un journaliste, justement, service public d'investigation qui a retrouvé ses deux voitures complètement brûlées après justement une attaque. Donc on voit que cette menace, elle est constante. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette jeunesse en Italie, on le voit aussi en France. Et c'est extrêmement important quand on voit cette mainmise du pouvoir et ce développement toujours plus prospère et important du populisme, que ce soit en Italie ou on peut faire bien évidemment des parallèles avec la France. Par rapport à ça, on peut aussi dire que Mélanie, elle incarne le populisme post-Berlusconi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce populisme, il est à la fois, on l'a dit, institutionnalisé, médiatique, même si justement Mélanie a de nombreuses réticences à répondre à la presse ou à faire des conférences de presse, puisque sur certains sujets, forcément, elle peut être très mal à l'aise et elle préfère faire de grandes conférences où justement elle s'est rendue très récemment à Naples où elle va parler face à un public qui est déjà conquis et à des personnes qui la soutiennent déjà de Fratelli d'Italia, de Forza Italia, de la Ligue de Salvini, du mouvement de Salvini. Et donc ça va être extrêmement compliqué pour elle de pouvoir, c'est-à-dire aller contre et se confronter véritablement à la presse et aux médias, puisque c'est un jeu qui est extrêmement compliqué. Et on le comprend au vu de toute la situation qu'on a pu décrire. Et donc, on voit que le populisme aussi, il est enraciné dans la culture italienne, bien évidemment, qu'au fil du temps, que ça soit à la fois avec la figure très controversée, où justement il y aurait énormément de choses à dire par rapport à Berlusconi, par rapport à tout ce qu'il a pu faire, par rapport au populisme, que nous avons donc la figure de Giorgia Meloni qui a hérité de ce populisme et qui a cherché à surfer là-dessus, ce qui peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement complexe. Et donc, par rapport à cela, et donc, bien sûr, évidemment, on peut dire que le fait d'observer l'Italie, c'est anticiper les tendances européennes, ce qui va probablement arriver en France et ce qui est déjà arrivé en France, ou essayer de comprendre les fractures et le populisme, les deux à la fois, c'est-à-dire que les fractures qui existent dans la société permettent au populisme de pouvoir émerger et de façonner considérablement la politique et de mesurer l'impact du charisme et des médias sur la démocratie. Et donc, en Italie, le populisme n'est pas un simple mot de presse. On pourrait dire que, justement, le populisme renvoie à un mot que l'on utilise comme ci, comme ça. C'est une réalité politique, sociale et culturelle. De Berlusconi à Meloni, on montre combien, on l'a dit, le charisme, les médias, les promesses populaires peuvent transformer la relation entre le peuple et ses dirigeants. Mais cette histoire, on le sait, n'est pas seulement italienne. Elle nous rappelle en France, comme ailleurs, que la démocratie n'est jamais acquise. Elle se construit chaque jour et ce désalignement entre citoyens et institutions ouvre la voie nécessairement à de nouvelles formes de populisme. Ce que nous montre l'Italie, ce que nous montre l'exemple de l'Italie, c'est aussi l'importance du lien social. Ernesto Laclau, il nous le rappelait. Il nous disait que le populisme est une recomposition du nous, une façon pour des citoyens de retrouver une voix quand ils se sentent oubliés, délaissés. Mais il peut être à double tranchant. S'il mobilise, il peut aussi diviser, stigmatiser et renforcer les fractures historiques et sociales. Alors, lorsque nous regardons le populisme italien, il faut toujours l'observer avec nuance. Comprendre ses racines culturelles et économiques, mais aussi rester critique sur ses effets à long terme. L'Italie, c'est un peu comme un miroir. Un pays où le populisme est à la fois spectacle, stratégie et phénomène social. Et peut-être, à travers ce miroir, nous pouvons mieux comprendre les forces et les fragilités de nos propres démocraties, chez nous et ailleurs. Prenez un moment, réfléchissez bien, discutez autour de ce café et surtout, restez curieux. Parce que la politique, au fond, c'est ça. Comprendre le monde pour mieux le transformer et comprendre au quotidien ces transformations. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mocha Politique.